Vous êtes bien sur Radio France Internationale en direct de Paris où il est 2h, minuit en temps universel et c'est l'heure de votre journal. Bienvenue à vous.
Jérôme Bastion.
Au sommaire de cette édition, nouvelle tension entre Paris et Tel Aviv. La France ne tolérera pas que l'armée israélienne vise à nouveau des casques bleus, a dit Emmanuel Macron, poussant l'armée israélienne à se justifier sur les tirs qui ont blessé deux soldats sri-lankais. Les avocats du patron de médias hongkongais Jimmy Lai, figure de proue du mouvement pro-démocratie, emprisonné sans jugement depuis 4 ans, disent craindre pour sa santé et interpellent le gouvernement britannique pour qu'il plaide sa cause auprès de Pékin. Des centres d'enregistrement de migrants illégaux arrêtés dans les eaux italiennes sont prêts à accueillir leurs premiers demandeurs d'asile sur le territoire albanais en vertu d'une mesure de rétention administrative décidée par un préfet romain, ont annoncé les deux pays après un accord bilatéral signé l'an dernier. Et puis nous évoquerons l'appréciation par l'agence de notation Fitch de la performance économique de la France après la présentation du projet de loi de finances censé sortir Paris de l'endettement. C'est un peu mieux faire que décroche le gouvernement Barnier. Le chef de l'État français a donc jugé tout à fait inacceptable que les casques bleus soient visés délibérément par les forces armées israéliennes. C'est la réaction du président français ce vendredi après de nouveaux tirs israéliens contre des soldats de la FINUL. 2 soldats sri-lankais ont été blessés, dont 1 gravement. Et Paris a convoqué l'ambassadeur d'Israël pour lui demander des explications. Dans la soirée, Israël a donc répondu par un communiqué, Nicolas Feldman.
Sur le réseau social X, l'armée israélienne affirme avoir ouvert le feu ce vendredi suite à une menace imminente à son encontre. Menace située d'après elle à 50 mètres d'un poste d'observation de la FINUL qui l'a poussée à ouvrir le feu, blessant 2 casques bleus sri-lankais, dont 1 grièvement. C'est la 2e fois en 2 jours que des soldats de la FINUL sont touchés dans des tirs attribués à Israël. Jeudi, 2 casques bleus, cette fois-ci indonésiens, sont tombés d'une tour après un tir de char près du QG de la Force des Nations Unies. La FINUL, composée de près de 10 000 hommes, est chargé dans le sud Liban de faire respecter la résolution 1701 des Nations Unies. Le texte prévoit que seuls les casques bleus et l'armée libanaise peuvent être déployés dans la région, mais le Hezbollah y maintient ses positions. Et depuis 3 semaines, l'armée israélienne y mène aussi des incursions avec l'objectif de déloger les combattants du mouvement pro-iranien, une opération qui s'accompagne, d'après la FINUL, de tirs répétés et délibérés sur ses positions. Nicolas Feldman, Jérusalem, RFI.
Et le président Macron en a profité pour réitérer son appel à bannir la vente d'armes pouvant servir contre Gaza, comme il l'avait fait il y a quelques jours, s'attirant les foudres de Benjamin Netanyahou, mais aussi pouvant servir contre le Liban. L'indignation internationale est en tout cas grande concernant ces tirs visant autant la FINUL d'ailleurs que l'armée libanaise, puisque 2 soldats libanais ont été tués ce vendredi et 3 autres blessés dans des combats avec les forces israéliennes. Le Premier ministre libanais Najib Mikati a demandé l'arrêt des hostilités, un cessez-le-feu et que le Conseil de sécurité de l'ONU prenne une résolution en ce sens. Comment se porte Jimmy Lai? Voilà 4 ans maintenant que ce défenseur du mouvement pro-démocratie est en prison à Hong Kong. Homme d'affaires, journaliste, il est détenu en vertu de la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin. À l'isolement, son état de santé inquiète. Or, comme il possède la nationalité britannique, son fils estime que Londres doit tout faire pour obtenir la libération de son père. Les explications à Londres, d'Emeline Vah.
Pour l'ONG de défense des droits humains Amnesty International, Jimmy Lai est un prisonnier d'opinion du régime chinois. Son fils, Sébastien, ne l'a plus vu depuis 4 ans.
Sa santé décline. Il est à l'isolement depuis plus de 1300 jours. Il est âgé. Il va avoir 77 ans bientôt. Il a du diabète. Ce n'est pas de bon augure.
Kylan Gallagher dirige l'équipe juridique internationale de l'homme de presse. Elle considère que le gouvernement britannique n'en fait pas assez pour son ressortissant.
C'est bien beau de dire qu'il doit être libéré, mais où est la stratégie? Nous disons au gouvernement britannique, quel plan? Comment assurons-nous sa libération avant qu'un Britannique ne meure en prison pour son travail de journaliste?
L'avocate, tout comme Sébastien Lai, ne peut plus se rendre à Hong Kong pour assister au procès. Pour Rebecca Vincent, de Reporters sans frontières, c'est avant la condamnation quasi inévitable qu'il faut agir.
La condamnation de Jimmy Lai servira d'étalon pour l'application de la loi sur la sécurité nationale aux journalistes et aux activistes pro-démocratie. Sans oublier que la loi sur la sécurité nationale s'applique partout dans le monde. On ne connaît pas les conséquences.
Sébastien Lai et ses avocates n'excluent pas un nouveau report de l'audience. Emeline Vin, Londres, RFI.
Or, selon des informations de presse, le ministre des Affaires étrangères britannique David Lammy doit effectuer dans les prochains jours une visite en Chine, ce qui pourrait permettre justement de mettre le cas de ce citoyen britannique au premier plan. RFI 2h06, ici à Paris, 2h06 à Rome exactement et minuit 6 en temps universel. Après des mois de retard et de controverses, les centres italiens pour migrants édifiés sur les ports albanais de Schengen et Gjader, sur une ancienne base militaire en l'occurrence, située à une vingtaine de kilomètres de distance l'un de l'autre, suite à un accord signé en 2023 entre la première ministre italienne d'extrême droite, Giorgia Meloni, et son homologue albanais Edi Rama, sont finalement opérationnels. Ils pourront accueillir des migrants illégaux normalement dès ce 12 octobre, à savoir ce samedi. C'est ce qu'a affirmé l'ambassadeur d'Italie en Albanie, Fabrizio Bucci, devant la presse vendredi. Reste à savoir si ce projet d'externalisation de milliers de migrants par mois pourra réellement se concrétiser. Anne Lenier nous appelle de Rome.
Construits aux frais de l'Italie et sous juridiction de ce pays, les centres dont le coût global atteindra 1 milliard d'euros seront réservés uniquement aux hommes non vulnérables interceptés en mer par des navires italiens. Le site de Schengen permettra d'effectuer les premières démarches administratives pour les migrants. Celui de Gjader servira à accueillir les migrants dans trois structures différentes, l'une pour ceux devant être rapatriés, l'autre pour les demandeurs d'asile et la troisième pour ceux ayant commis un délit à l'intérieur d'un des centres. À terme, le protocole italo-albanais prévoit l'accueil de 36 000 migrants par an. Mais un récent arrêt de la Cour de justice européenne établit que pour être considéré comme sûr, un pays doit l'être entièrement. Ce qui remet en question la liste de 22 pays sûrs établie par l'Italie pour les procédures de rapatriement accélérées. Autrement dit, le projet visant à décourager les candidats à l'asile en Italie pourrait rapidement s'effondrer comme un château de cartes. Anne Lenir, Rome, RFI.
Le gouvernement français a dit prendre acte de ce premier test pour le projet de loi de finances présenté par Michel Barnier, puisque le verdict est tombé ce vendredi. L'agence de notation américaine Fitch a maintenu stable la note de la France, mais avec une perspective négative, c'est-à-dire que la note du pays pourrait baisser dans les prochains mois. Une nouvelle qui intervient alors que le déficit du pays s'est envolé cette année encore et que le nouveau gouvernement vient de présenter un projet de loi de budget 2025 soumis à de fortes critiques. Selon Éric Dor, directeur des études économiques à l'IESEG, école de management, l'agence Fitch met en quelque sorte le pays sous surveillance avant le vote du budget au Parlement, si jamais c'est le cas un jour.
Ce qui pourrait provoquer une dégradation de la note elle-même la prochaine fois, ce serait la capacité effectivement du gouvernement de faire voter des mesures suffisantes pour infléchir la trajectoire du déficit et de la dette publique. Fitch nous dit d'ailleurs qu'il ne croit pas à la possibilité de faire passer le déficit public en dessous de 3% d'ici 2029. Malgré, dit Fitch, que 2029, c'est déjà 2 ans plus tard que les 2027 qui avaient été annoncés précédemment. Et donc, quand même, c'est un constat qui est assez sévère vis-à-vis de l'évolution probable des finances publiques françaises. Ce qui me fait dire que finalement, vu ce constat, on peut peut-être être encore content qu'on se soit contenté d'une dégradation de la perspective plutôt que d'une dégradation de la note elle-même déjà.
L'économiste Éric Dor était interrogé par Justine Fontaine. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous retrouvez Couleur tropicale. Et l'information revient dans 50 minutes sur RFI.